Jacques Beck, vous êtes poète, mais aussi romancier. Vous étiez paysan et le premier roman que vous avez écrit. Et aujourd'hui, donc, vient de paraître Le siècle de Joseph. Bienvenue à Fréquence Mistral pour nous présenter ce livre. Jacques Beck, Le siècle de Joseph, un livre politique romancé.
C'est un roman politique, oui, on va dire un roman avec une teneur historique et politique sur les grands événements et les grandes problématiques du XXe siècle. Oui, on peut dire ça comme ça.
C'est pas franchement la suite de Vous étiez paysan, ça pourrait.
Ça pourrait, puisque le héros, le centenaire à qui me parle, puisqu'il est, il me parle en 2015 et il fait le bilan de sa vie, est né en 1915, et que le fils de Marceau Arnaud, qui était le héros de Vous étiez paysan, hein, je rappelle que donc cet agriculteur basalpin est mort en août, le 20 août 14 en Moselle. Et donc son fils, il a eu un fils qu'il n'a jamais connu, qui est né, lui, en 1915. Donc, avec un petit peu d'imagination, pas beaucoup d'ailleurs, on pourrait concevoir que Joseph est le fils d'Arnaud et qu'il y a ainsi, entre les deux romans, un lien. D'ailleurs, ce lien est évident dans la trame même de mon roman. Hein, et ce lien parle des hommes d'ici, des hommes et des femmes d'ici, et dans ce siècle de grands drames et de grandes désespérances que fut le XXe siècle.
Le siècle de Joseph, donc un travail d'écriture qui... Est-ce que ça a nécessité de faire des recherches pour vous, un peu un travail d'historien ?
Ça a nécessité effectivement de faire des recherches historiques parce qu'il y a un certain nombre d'événements nationaux, internationaux, qui doivent être pris en compte. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est de faire vivre ce personnage, mais pas seulement dans son milieu quotidien, dans son vécu quotidien valensolé et basalpin, mais également dans les grands événements du monde. Et de la façon dont aussi la population à l'époque, à cette époque où il a vécu, percevait ces événements et la façon aussi dont cette population a pu réagir. Donc ça veut dire que il faut lire les historiens de l'époque, il faut aller aux archives. Et je pense qu'il faut lire aussi, bien sûr, pour ne pas faire d'anachronisme et pour être... dans la vérité, hein, le roman, c'est toujours un peu ce que disait Aragon, c'est le mentir vrai, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... Il y a la réalité, et puis il y a une dimension romancée, évidemment, puisque mon personnage n'a pas fait complètement tout ce que je lui fais faire. Il est un archétype d'une régénération. Et à travers lui, c'est plusieurs personnages qui ont fait réellement ce qu'il a fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis, la troisième source, ce sont les romanciers, les autres romanciers. Hein, qui... Enfin, quand j'ai dit les autres romanciers, je manque de modestie, parce que un des principaux romanciers qui traverse le livre, c'est Malraux. Donc, loin de moi l'idée de me comparer à lui. Hein. Il y a eu Malraux, il y a Orwell, il y a Hemingway, à travers... Il y a beaucoup de lectures que j'ai faites ou refaites à l'occasion de ce roman. J'ai calculé que j'ai lu ou relu à peu près 13 ou 14 romans. En complément, hein, pour me remettre dans l'ambiance. Y compris, par exemple, je pense au Chaos et à la nuit de Monterland, qui est assez peu connu, mais qui raconte les affres d'un anarchiste espagnol réfugié à Paris, qui fait des rêves, des cauchemars la nuit. Enfin, bon, voilà, quoi.
Donc dans ce livre, vous parlez bien sûr du Front populaire, du Parti communiste français, de tous ces idéaux des jeunes à cette époque-là. C'est situé beaucoup à partir des années 1936-39, oui. L'époque franquiste.
Ben oui, parce que ce centenaire, qui ressemble un peu à mon père aussi, hein, qui est évoqué dans ce roman, il naît après-guerre, il est orphelin de père, comme énormément d'enfants. Il vit dans la tristesse, le recueillement, les grandes commémorations, la pauvreté. Hein. Et puis, il fait partie de cette cohorte de paysans très pauvres qui existait à l'époque. L'époque aussi de grandes migrations vers l'industrie. Hein. Et évidemment, 1936, pour lui, ça représente, avec la montée des fascismes, la montée des périls en Italie, en Allemagne, etc., ça représente aussi un espoir, parce que 1936, c'est février 1936, bien sûr, l'arrivée du Front Populaire, du Front Populaire, enfin, une sorte de Front Populaire, on va dire, espagnol. Et puis, c'est évidemment le Front Populaire en France. Et il est démobilisé. Il arrive en début juillet, je crois, à Valensole. Et bien sûr, c'est l'effervescence, parce qu'on parle des grandes conquêtes possibles, de l'Office du blé notamment, qui était tant souhaité par les agriculteurs à l'époque, car il y avait une spéculation terrible sur les céréales, et tous les petits agriculteurs étaient à la merci des spéculations, bien sûr.
Alors, c'est un livre, donc Le siècle de Joseph, ce livre que vous avez fait paraître aux éditions,
Centre littéraire d'impression provençale.
Voilà, c'est ça. Donc vous avez une préface de Guy Jean-Pierre. Dans ce livre, donc, vous parlez beaucoup des réfugiés espagnols qui arrivent à Valensole, justement, en janvier 1939. Ce sont beaucoup de femmes et enfants qui sont affrétés à Valensole.
Ben oui, il y a à partir de janvier, bien sûr, c'est l'exode des républicains, poursuivis jusqu'à la frontière par les franquistes et par les avions de Mussolini. Jusqu'à la frontière, ils sont bombardés. Ils arrivent dans des conditions atroces, psychologiquement et physiquement. Ils sont parqués, je raconte un petit peu l'histoire du camp dit de concentration d'Argelès, puisque le ministre à l'époque avait dit que c'était un camp de concentration, ce n'est pas un camp de prisonniers. Enfin, à l'époque, le mot « concentration » n'avait pas les connotations qu'il a pris par la suite, bien sûr. Et 2000 d'entre eux, notamment d'entre elles, d'ailleurs, femmes et enfants, arrivent en garde digne et restent quelques jours, 2, 3 jours, 4 jours, peut-être, en garde digne, où on leur apporte à manger comme on peut. Enfin, vous voyez les conditions d'hygiène qu'il peut y avoir en garde digne, qui ressemble un peu à la guerre actuellement, d'ailleurs, qui n'a pas beaucoup changé. Et sont répartis dans les villages des Basses-Alpes, dont 71, effectivement, arrive à Valensole. Il y aura même une classe qui sera créée à Valensole pour que les enfants puissent accéder à l'école le temps qu'ils arrivent. Les maris étant souvent gardés dans des camps, je l'ai dit, Argelès, Cerbère, enfin bon, voilà.
Comment sont perçus ces migrants espagnols pour les gens de Valensole?
Alors, il faut contextualiser toujours. C'est janvier, février, mars 1939, de deux manières. Il y a toute une campagne contre ces gens anarchistes rouges, invivables et inclassables, ingouvernables, qui arrivent, qui ont mis, selon un certain nombre de journaux à l'époque, l'Espagne a feu à sang, bien sûr, donc c'est le parti pris très, très idéologique contre eux. Et puis, il y a toute la solidarité qui se manifeste, notamment à gauche. Mais pas seulement. Par exemple, j'ai retrouvé un fait que j'ignorais, c'est que Giono, qui était très pacifiste et qui sera d'ailleurs, comme on le sait, un peu inquiété à la fin de la guerre pour son pacifisme, eh bien, a été membre du premier comité d'accueil des républicains espagnols à Manosque, qui s'est créé. J'ai vu son nom comme ça, qui apparaissait. Et donc, bon, c'est un peu ambivalent. Je crois qu'il y a des journaux, des coupures de journaux de l'époque. Les journalistes auraient honte de lire ce qu'ils ont écrit à l'époque, quoi. Voilà. On va dire ça comme ça. Parce qu'évidemment, il y avait de la xénophobie, il y avait de la méfiance, il y avait... que viennent faire toutes ces femmes? Il y avait ça aussi, dans les villages. Que viennent faire toutes ces femmes, d'un coup, qui arrivent avec des enfants? Bon, est-ce qu'elles ne sont pas de mœurs? Il y avait tout ça aussi qui comptait. On est quand même en milieu rural, et c'est pas un milieu rural qui ressemble au milieu rural que nous avons actuellement. C'est un milieu rural qui a plus à voir avec le 19e siècle encore. N'oublions pas que la France est très rurale, très longtemps, mais dans une ruralité dont l'identité prend ses racines dans le siècle d'avant, quoi. Voilà.
Donc après les réfugiés, bon, il y a cette période avec les réfugiés. Il y a aussi au milieu, il y a aussi les premières amours du personnage principal Joseph avec cette rencontre avec Marcel.
Avec Marcel, bien sûr. Bon, c'est les amours de jeunesse.
Et puis après Maria.
Et Maria Vallaguer, qui est une héroïne complètement romanesque, bien sûr. Et qu'il rencontre en Espagne. Bon, l'histoire dit ensuite qu'il a apparemment il a un enfant, puisque ça me permet aussi de boucler le roman avec l'Espagne, dans la mesure où je fais l'hypothèse que ça a été vraiment une matrice qui éclaire un peu tout le XXe siècle, quoi. Et Maria, c'est aussi le symbole de ces femmes espagnoles qui découvrent la liberté, hein. Fille de grands bourgeois, qui fait des études, qui a ses premiers engagements anticoloniaux en France, puisque son père l'envoie en France. Manque de chance, son père qui était un libéral, un patron du textile catalan. Maria, en France... commence à militer contre le colonialisme au Maroc. À l'époque, d'ailleurs, au Maroc, les armées coloniales, c'était Pétain d'un côté, c'était Franco de l'autre pour l'Espagne. Enfin voilà. Hein, c'est... Et Maria, en même temps, symbolise le besoin de libération, à mes yeux, d'une bourgeoisie, enfin d'un pays où les femmes étaient encore sous la coupe de l'Église, où il était... Et il était important de porter le chignon, voir la mantille, etc. Et bien sûr, elle découvre la liberté, y compris dans tous les sens du terme, quoi.
L'Église et les maris, ensuite.
L'Église et le mari.
Plus voilà. Le mari.
L'Église et le mari,
voilà. Voilà, donc c'est un portrait de femme forte, ouais. Libérée et résistante. Et il y en a eu des femmes résistantes qui se sont battues aussi.
Ouais, effectivement, il y en a beaucoup. Ben, j'en cite... nommément une dans mon roman qui a fait avoir avec ma famille, puisque c'est ma grand-mère paternelle, et qui a été, je cite l'arrestation, hein, puisque ça concerne mon père en fait aussi, hein, puis il y a quatre Valensoli qui ont été arrêtés en mai 1944 et menés donc ici à la Gestapo, et parmi eux il y avait ma grand-mère paternelle, qui était une femme... qui avait vécu la Première Guerre mondiale, qui parlait assez peu, que j'ai bien connu, mais qui, à ce moment-là, s'est révélé d'un courage assez extraordinaire, puisque pendant plusieurs jours, on l'a gardée à la villa Marie-Louise, je crois, qui était pas loin du collège Gassendi, et qu'elle n'a pas parlé, elle n'a rien dit, elle a dit tout ignoré, malgré les menaces, etc. quoi. Et voilà, c'est aussi l'exemple de ces femmes qui ont su... qui ont fait des actes courageux que l'on oublie ou que l'on méconnaît et qu'on ne connaît pas.
Donc ce livre, c'est un peu leur rendre hommage à tous.
Complètement.
Leur
complètement.
Rendre cette histoire, ouais. Que c'est quand même un siècle difficile avec la pauvreté, la guerre.
C'est un siècle difficile où on a demandé à toute une génération de jeunes qui ne demandaient que la paix de prendre des positions radicales. Il faut être dans le contexte de l'époque pour comprendre ce radicalisme, quoi. Et le radicalisme, il était aussi de l'autre côté, hein. Il n'était pas que dans la résistance. Même si ce n'est pas le bon côté, même s'il y a eu des jeunes qui, par, je dirais presque romantisme, se sont engagés sur des voies complètement folles. Collaboration, hein. Ça existait aussi, il faut le dire, quoi. Voilà. Ça existait aussi.
Et puis il y a eu tous ces morts accidentelles, enfin soi-disant, des personnes assassinées.
Ben oui, après, il y a eu bien sûr tous ces assassinats... 1944, le premier semestre a été un premier semestre assez sanglant dans les Alpes d'Haute-Provence, parce qu'il y avait beaucoup de maquis ici. Et quand on regarde les stèles, c'est souvent en juin 44, au moment de... Enfin, ce serait assez long à expliquer, mais de la réaction des armées allemandes, qui à la fois attendaient le débarquement et qui, en même temps, voulaient remettre de l'ordre dans l'arrière-pays, qui est bougé énormément, puisqu'on savait que le 6 juin, il y avait eu le débarquement en Normandie, et que de grandes espérances arrivaient, on savait de toute façon que l'Allemagne allait perdre. Car les gens étaient très informés, et ils étaient informés par Radio Londres, notamment. Moi, je cite le cas de Valensole, qui avait Radio Londres dans sa cave, là, et, mm-hmm. et ils étaient parfaitement informés. Ils savaient qu'à Stalingrad, ça avait mal tourné en février pour 43 pour les Allemands. Ils savaient que le basculement avait eu lieu. Ils savaient que c'était irrémédiable. Donc, tout ça, lié au fait que personne ne voulait partir au STO, ça a expliqué une explosion des maquis. Et puis après, il y a eu cette période, ce no man's land juridique après le départ des Allemands, qui fait qu'il y a eu un certain nombre, effectivement, de règlements de compte moins importants que ce qu'une certaine propagande a dit. Je regardais quand même les chiffres au niveau national de l'Institut d'histoire de la résistance et des historiens qui ont travaillé là-dessus. L'épuration a concerné à peu près 10 000 personnes décédées, enfin 10 000 morts. Hein. Donc c'est effectivement important, mais ça donne la limite, l'importance et la limite de ce phénomène d'épuration qui a été globalement, disent les historiens, contenu, avec bien sûr des exactions et des exemples, des contre-exemples navrants, comme toujours dans ces cas-là. Voir que vous aviez des gens qui avaient pris des armes et qui étaient surexcités. Et voilà, quoi. Quand on ouvre la boîte de Pandore, c'est très difficile de la refermer tout de suite.
Alors dans les personnages que côtoie Joseph, il y a Raoul. C'est un compagnon d'évasion.
Un compagnon d'évasion, oui, qu'il a eu. C'est quelqu'un qui s'était évadé a eu un compagnon d'évasion comme ça. Et j'en connais au moins deux, d'ailleurs, de Valensole, qui se sont évadés avec un compagnon. Il ne fallait pas s'évader à un grand nombre, bien sûr. Il fallait s'évader seul, c'était très aléatoire également. Il fallait donc compter sur une personne de confiance. Et puis, dans les camps, cette confiance se crée sans doute au fil des jours. Hein, puis voilà.
Et il y a aussi ce personnage Flore. Hein. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce personnage ?
Alors, je peux vous en parler parce que Flore, c'était le nom de résistance de mon père. Et donc, à travers lui, à travers son personnage, c'est aussi un hommage implicite à la famille, à ma grand-mère, bien sûr. Et voilà, lui, il symbolise... J'ai pas essayé d'être laudatif. Je ne crois pas. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Il symbolise... Bien sûr, il y a une dimension affective évidente, mais... Il est très difficile de prendre de la distance, mais il symbolise aussi toute une partie de jeunes. Lui, il est né en 1920, hein, en l'occurrence, hein, qui sont obligés, qui se voient en situation de prendre les armes parce que, d'abord parce que il y a cet événement considérable après la Première Guerre qui est la Révolution d'Octobre, qu'il y a ce jeune parti communiste qui recrute. Que la situation politique est manichéenne et que dans une situation politique manichéenne, on prend parti de façon aussi manichéenne. Le manichéisme ne naît pas spontanément dans un courant politique. C'était la période qu'il était. C'était pas le Parti communiste ou le Parti socialiste ou la. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et on dit c'est comme le film. Hein. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes, mais moi, il se trouve que mon père était très engagé. Et moi, je suis né après-guerre, et donc j'ai connu aussi cette ambiance de guerre froide qui était manichéenne au possible et qui induisait une bonne part de paranoïa, c'est clair. Mais en même temps, c'est aussi un bilan de ma propre vie. Hein. Après tout, moi, un temps, j'étais militant. J'essaie de faire un peu un bilan de tout ça, de voir au trébuchet de l'histoire ce que ça vaut, quoi. Bon. Je pense que ça a été important. Je pense qu'il y a eu... Tout n'est jamais blanc ou noir. Hein. Il y a eu des choses très importantes, hein, des avancées. Hein. Je parle du Conseil national de la résistance. C'est une avancée considérable sur laquelle, d'ailleurs, notre société est structurée, hein, encore à l'heure actuelle. Hein. Et en même temps, toutes les limites que le mouvement communiste international a pu connaître et s'est mis de lui-même, d'ailleurs, hein, pour ce qui concerne en particulier le Parti communiste français, mais c'est peut-être une autre discussion qu'il faudrait avoir ailleurs.
On va faire une pause avec Lenny Escudero, le chant de la libération, le chant des partisans.
Chant des partisans.
On l'écoute tout de suite et on se retrouve juste après Jacques Beck.
Vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Au et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, les mitrailles, la grenade. Ouez les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Ouez saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute.
Lino Escudero, qui était fils de républicain espagnol.
Exilé aussi.
Et son interprétation, je l'ai choisie parce que il y a dans son intonation une certaine souffrance. Et c'est pour aussi démythifier un petit peu la résistance. C'est-à-dire qu'on ne claque pas les doigts en disant « je vais devenir un héros ». C'est pas comme ça que ça se passe. C'est face à l'impossible qui est proposé, réagir. C'est l'homme qui dit non, quoi. C'est l'homme qui dit non de Camus, pour moi. C'est-à-dire que on devient un héros parce que on choisit de dire non à un moment donné. Et je crois que c'est encore plus fort, encore plus important. Et c'est parce qu'ils ont un jour dit non, qu'ils sont devenus des héros, que certains sont morts pour la France et que les choses se sont passées comme ça. Et que, aussi, dans la mémoire collective, il reste autant de choses de cette période. Autant de choses. Je crois que c'est ça, quoi. Voilà, c'est simplement un hommage à tous les résistants.
Dans votre livre, vous parlez aussi de la théorie de la pureté, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors ça, c'est... On rentre un petit peu dans les détails, mais c'est donc... Vous savez, Jean-Pierre Chabrol avait écrit un livre, La folie des miens. C'est un peu La folie des miens, quoi. Bon, moi, j'étais fils de communiste, j'étais au Parti communiste, et à un moment donné, le Parti communiste, toute l'intelligentsia, à la fin de la guerre, au début des années 50, était communiste. C'était... Et ce capital a été malheureusement dilapidé, parce qu'il y avait un lien beaucoup trop étroit, permanent et quasi hiérarchique avec l'URSS, bien sûr, qui était devenu entre-temps ce qu'elle est devenue. C'est-à-dire que ce n'était pas le pays de l'espérance à la liberté, c'était le pays mis au pas par un dictateur. Et donc tout ça, bien sûr, on sait comment ça s'est passé. Et ça allait très loin, parce que la pureté... Je fais parler Maria, qui est une communiste, je dis même. Mais ça existait, des personnages comme ça. On va chercher la pureté. C'est-à-dire que quand il y a un problème, on essaie de voir la pureté. Et dans une organisation, on n'hésite pas à épurer, à enlever du sang... Comme la saignée des médecins du XVIe siècle... C'est toujours comme ça, quoi. On croit qu'on devient plus fort au nom de la pureté. On exclut. Alors nous, en France, on dit qu'il n'est pas les gens, mais c'était l'exclusion. C'est ça, le stalinisme aussi. C'est au nom d'une grande cause, on détourne ou on nie complètement cette cause parce qu'il faut absolument une pureté révolutionnaire qu'on a trouvée déjà durant la Révolution française. C'est au nom de la pureté que Robespierre a quand même établi le comité de salut public. Il y a des tas d'exemples comme ça. C'est au nom de la pureté que Malraux décrit dans Les Conquérants la liquidation d'un certain nombre de gens durant la Révolution chinoise qui sont liquidés froidement et de façon cynique par des plus calculateurs. Et souvent, très souvent, c'est comme ça. Il y a moult exemples dans l'histoire qui montrent que, malheureusement, au nom de la pureté, c'est les plus purs qu'on dégage en premier, quoi. C'est-à-dire ceux les plus engagés et ceux qui n'ont pas de visée stratégique. Vous savez, je pense que ça ouvrirait à bien d'autres débats, mais la façon dont la lutte du FLN en Algérie a été détournée en 1962 au profit des islamistes et et des militaires, je vous fais pas de dessin, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça qui se sont passées et qui faisaient dire d'ailleurs à Camus que la révolte est naturelle, elle est humaine et la révolution devient toujours malheureusement césarienne. Et je crois que Camus avait raison. Toujours dans les révolutions, enfin je ne connais pas d'exemple de révolution qui ne soit pas devenue césarienne, sauf peut-être celle de Pancho Villa, mais il a été assassiné avant, malheureusement.
Alors pour revenir encore au siècle de Joseph, deux événements ont marqué Joseph. C'est le printemps de Prague et cette photo de cet homme le poing levé face au char soviétique. Et le deuxième événement, la contre-manifestation gaulliste après le mouvement étudiant avec donc André Malraux au coude à coude avec ses compagnons.
Ben oui. Le printemps de Prague, j'avais 20 ans. C'est plus moi qui parle parce que effectivement, c'est un choc. On ne peut pas tenir une dialectique. Vous savez que les marxistes sont très forts pour avoir un discours dialectique et puis j'en connais un petit peu un rayon là-dessus. Mais on ne peut pas tenir un argumentaire politique face à des chars. Il y a des images qui disent tout. De la même manière que l'image de cette enfant vietnamienne brûlée par le napalm par les Américains disait tout aussi. Et on sait l'importance de la photo. Bon. Pour ce qui concerne la manifestation de Malraux, c'est le roman. C'est parce que Malraux est aussi un personnage qui a traversé le XXe siècle et je l'utilise abondamment puisque Joseph, dans ses jeunes années, lit Malraux grâce à son instituteur, Les Conquérants, La Voie Royale. Et il retrouve Malraux, bien sûr, à la brigade Espagne, puisque lui fait le service militaire en aviation et il est embarqué dans l'aventure de la brigade Espagne. Ben voilà, il est communiste et puis en 68, il voit Malraux, qui est devenu, entre-temps anticommuniste d'ailleurs, qui est gaulliste, bien sûr. Et cette contre-manifestation, par rapport à ce mouvement qui était un mouvement protestataire, mais plus... les communistes ont appréhendé 68 de façon bizarre. C'était pas un mouvement prolétarien, c'était un mouvement sociétal. Et du point de vue sociétal, il y avait quand même un décalage de génération, quoi. La génération d'avant regardait, communiste ou pas, ces jeunes qui criaient leur angoisse, comme c'était mon cas en 68, parce qu'on arrivait tous à la fac et qu'on ne savait pas trop où on allait se caser, etc. Bon, c'est un peu ça. Et puis ce besoin de liberté basique, quoi, je veux dire, de la hiérarchie dans la famille, tout ça, bon, on en avait un passé, quoi, c'est clair. Lui, le héros qui appartient à cette génération antérieure, qui n'est pas la mienne, ben, il regarde cette contre-manif et il voit Malraux, il dit, il est un peu ébranlé quand même, quoi. Il est, voilà, ça le...
On va peut-être revenir encore à cette femme, Maria, donc, qui a marqué Joseph très fortement.
Oui, oui. Ben oui, puisque Maria, il découvre au hasard d'une discussion, en 41, avec une réfugiée espagnole dont le mari était officier. Et il découvre que Maria a eu un enfant en novembre 1938. Or, lui était parti, avait été blessé. Il était parti de Barcelone en mars 1938. Et donc, il découvre cette possibilité d'être père. Et puis, par un détour que le roman permet, bien sûr, ce fils possible, potentiel, eh bien, il le rencontre un jour à Valensole. Et ce fils potentiel a repris les affaires du grand-père. Hein. Il est industriel à Barcelone. Et lui, il ne le sait pas, mais l'autre est venu le voir. Et ils se sont probablement vus au bord d'un champ. Un jour, il se rappelle vaguement de ce jeune homme qui lui a laissé une lettre. Dans cette lettre, il parle aussi de la lettre que sa mère lui avait laissée sur lui. Enfin, c'est un effet de poupée russe qui boucle la boucle. Et bien sûr, il invite chez lui en Espagne, mais lui, n'y va pas parce qu'il dit, d'abord, nous ne sommes pas du même monde. Moi, j'ai fait ma vie ici. Qu'est-ce que je vais dire, ce secret? Pourquoi? J'ai mes trois filles, ne comprendraient pas. Il y a des secrets dans la vie, mais ça, on le sait quand on vieillit. Il y a des choses qui méritent d'être tues, en fait. Mm-hmm. Voilà. Et il emporte ça dans la... Il n'emporte pas dans la tombe parce qu'il me le dit à moi, puisqu'il me demande d'écrire son histoire. Mais voilà, c'est... dans son histoire, il y a aussi ça. Et parce que c'est un individu comme tous les individus, profondément humain, et que voilà, c'est sa vie, quoi. Et que ça compte doublement, ça compte affectivement et ça compte, je dirais presque politiquement, ça compte. D'ailleurs, il dit, à la fin, là, je lui fais dire, finalement, il assiste à la tentative de push, la dernière qui a eu lieu en Espagne en 1980, mm-hmm. en direct à la télévision, quasiment. Et puis, il dit, finalement, ce push n'a pas eu lieu. C'est peut-être, finalement, Maria n'est pas morte pour rien, quoi. Il y a quelque chose qui reste. Et c'est vrai que cette histoire espagnole, elle est quand même... La boucle se boucle un peu en 1980, quoi, mm-hmm. avec cette tentative de coup d'État qui me fait penser à la phrase de Mars, puisque je décris ce colonel là, qui veut prendre le pouvoir, qui s'agite comme une mouche dans un bocal au Cortés. Ouais. Vous savez, l'histoire se répète toujours deux fois, une fois en tragédie, une fois en comédie, quoi. Hein, et là, c'est du grand guignol, quoi, cette histoire-là.
Je trouve que vous êtes un peu dur, enfin Joseph, que vous faites parler par rapport à ses filles. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de lien. Les filles sont... presque trop bête pour comprendre pour partager ses souvenirs.
Non, c'est pas ça. Je crois qu'il est pudique. En tout cas, c'était pas mon intention.
C'est plutôt un rapport superficiel avec ses filles.
Non, un rapport affectif de père à enfant, mais il y a une... C'est une histoire particulière. Enfin, moi, j'ai une fille, donc j'en parle. Mm-hmm. Hein. Je crois qu'il y a... Moi, j'ai de très bons rapports avec ma fille, bien sûr, et c'est... Je crois qu'il y a un rapport au père qui est un peu mythologique aussi, qui est c'est un peu un idéal type quand ça se passe bien dans une famille. Et lui, il en est conscient et je pense qu'il ne veut pas détruire cette image qu'il a construite parce que c'est aussi un homme de cette génération que dans la famille, le pater familial, ça comptait, que l'image paternelle, ça comptait, même s'il est empathique, s'il est doux, s'il est tendre, mais cette histoire-là, il veut pas le raconter, quoi. Et alors, c'est vrai que après, c'est aussi lié à quelques considérations de vieillard qui sont un peu dures, ça je l'admets, de dire, elles viennent me voir avec des petits-enfants, mais j'ai 100 ans, que se dire? La boucle est bouclée, quoi. Bon, et puis, d'une certaine manière, maintenant, il est temps que je reste avec mes souvenirs. C'est un peu la chanson de Anne van der Love, non? Mm-hmm. Qu'on me laisse mes souvenirs. Mais voilà, c'est... Alors, j'ai conscience que c'est pas très, très gai. Mais est-ce que ce n'est pas aussi la réalité des personnes très âgées de vouloir, à un moment donné, vivre avec leurs souvenirs? Est-ce que ce n'est pas une réalité que ce rapport qu'on entretient avec les personnes âgées, où on va les voir, mais on n'a pas grand-chose à se dire? Vous voyez, il y a une obligation de se rendre à l'EHPAD ou, je sais pas, ou chez elles, mais dans la réalité, au bout de 5 minutes, que se dire, quoi? Voilà. C'est dur, ce que je dis, mais j'en suis conscient. Mais c'est un peu... C'est aussi un regard un peu réel sur les choses. Enfin, je ne sais pas si vous avez...
Tout à fait. Où se procurer le livre « Le siècle de Joseph » ?
Le siècle de Joseph, on peut... Donc, d'abord, il est ici, à la Ruelle et à...
Maison de la Presse.
À la Maison de la Presse. Bon, ensuite, je vais faire le tour, dès que je pourrai, des médiathèques. Mais là, c'est un peu en suspens. Et puis, on peut aussi se le procurer en me téléphonant ou en m'envoyant un mail. Alors, je peux donner mes coordonnées, éventuellement. Oui. Donc, au 06 86... 47 13 12 becjacques48@gmail.com, donc tout en minuscule, bien sûr, becjacques48@gmail.com et puis je peux l'expédier.
Et vous pouvez l'expédier.
Il n'y a pas de souci. Hein. D'ailleurs, je l'ai expédié pas mal. Voilà.
Vous diriez que ce livre s'adresse à quel type de lecteur? Plutôt des jeunes, plutôt...
Je me fais pas d'illusions sur l'appétence de lecture chez les jeunes, mais bon, je dis pas ça par méchanceté, on est sur d'autres médias, bon, enfin bref, quoique, bon, la lecture pour moi ça a toujours été important, je vais pas dire le contraire maintenant. Mais je pense qu'il s'adresse aux nouvelles générations comme aux anciennes. Aux anciennes parce qu'ils y retrouveront des repères, bien sûr, hein. Alors quand je dis aux anciennes, c'est les anciens anciens, mais c'est un ancien ancien qui m'a fait ma préface, hein, Louis Vaillant, et qui a 94 ans, qui a été mon directeur général au ministère de l'Agriculture, et qui a toujours le même enthousiasme, etc. Et je le remercie ici, c'est l'occasion de le remercier. Et il s'adresse aussi aux gens de ma génération, parce que nous avons vécu ces choses-là. Enfin, nous en avons entendu parler à chaud, et nous les avons vécues. Et puis, il s'adresse aux jeunes générations, parce que je crois qu'il y a beaucoup à méditer dans les circonstances actuelles de ce qui a fondé, structuré notre nation, notre République actuellement, nos valeurs, et savoir qu'elles ne sont pas tombées du ciel, qu'elles sont remises en cause en permanence, qu'il y a des périodes où il faut savoir prendre position, que la nation, c'est quelque chose, ça existe, la République aussi, que c'est à défendre. Je ne veux pas me lancer dans un discours politique ici, parce que... Mais
en tout cas,
y compris sur le devenir de l'Europe, par exemple, on pourrait beaucoup parler à partir de ce bouquin. Hein.
En tout cas, on peut retrouver des similitudes de délation, de dénonciation, enfin, même si on ne vit pas une vraie guerre en France, mais en tout cas, il y a ceux qui veulent la liberté de ne pas porter de masque, il y a des clans qui se font,
voilà, et, y a ça aussi,
et,
oui.
Et des gens qui dénoncent.
Écoutez, moi je ne suis pas un analyste ni un philosophe très fondé, hein, mais enfin quand même, on est quand même dans une situation un peu orwellienne. Mm-hmm. Bon, un an de masque, un an de... On nous a quand même fait admettre qu'il fallait se faire une auto-autorisation écrite pour sortir de chez soi, il y a un an, alors que maintenant, ça, tout le monde, y compris le gouvernement, le considère comme absolument absurde. Donc, on ne peut pas dire non plus qu'on est régi en permanence par la logique la plus rationnelle. Pour le moins, voilà. On peut dire ça.
Jacques Bec, merci.
Et merci
puis,
à vous.
Est-ce qu'il y aura un projet déjà en route ou non, il faut déjà, parce que là, ça a demandé quand même...
Ça m'a demandé 3 ans, d'abord parce que je suis assez... Vous savez, je suis à la retraite, je suis devenu feignant, sans doute. Hein. Mais il y a aussi un autre problème. Quand je dis ça, c'est que, pour moi, en tout cas, personnellement, je ne peux pas écrire quelque chose duquel je ne me suis pas imprégné longuement, où je me suis immergé. C'est vrai que l'immersion a été progressive, et la dernière année, un peu à cause des romans, un peu à cause des relectures, des lectures, des archives, etc., j'ai vécu vraiment cette période de façon intense, quoi, hein. En reprenant des événements très précis, etc. Et j'étais plongé dans le monde de Joseph, dans l'époque de Joseph, dans le siècle de Joseph, quoi. Alors l'illustration, il y a une illustration qui est il quarto stato, c'est le caretta, hein. C'est la reproduction en libre, bien sûr, d'un tableau de Giuseppe Pellizza qui est au musée du Novecento à Milan, qui montre cette masse de paysans, hein, pauvres, d'entre-deux-guerres. Ça m'a paru très illustratif un peu de cette génération, quoi, qui a connu le pire, qui a connu des moments très enthousiasmants, de grandes déceptions, et puis des grandes joies aussi, bien sûr. Hein, c'est...
Est-ce que vous avez eu des retours déjà, oui, de Valençonnet, c'est comme ça qu'on a appelé,
Valençonnet, oui, oui.
Suite à la lecture de ce roman.
Ah oui, il y a des gens qui m'ont dit... par exemple, il y a une dame qui m'a dit, mais tu sais, j'étais parmi les gens que les Allemands avaient rassemblés sur la place du village quand un chasseur avait tiré sur un grand bois. Je le raconte, ça, et elle me dit, mais tu sais que j'y étais, là. Alors, c'est bien, d'ailleurs, de se faire tutoyer comme ça. Et puis, il y a eu des personnes qui m'ont dit, mes parents m'en ont parlé, merci de les faire revivre comme ça. Oui, j'ai eu des retours positifs, hein. Oui, tout à fait. Hein. Et bon, après, sachant que c'est une période très complexe, aucune période n'est jamais simple, hein. Mais celle-ci était particulièrement compliquée, mais avec un grand espoir quand même. C'est que on n'aurait pas donné grand-chose de la France en 1942-43. Hein. Et puis, elle a trouvé en elle les forces pour non seulement se redresser, mais faire partie des... être à la table des grandes nations et avancer comme elle ne l'avait pas fait jusque-là, quoi. C'est quand même considérable. C'est aussi une leçon.
Jacques Beck, merci beaucoup. Donc, on rappelle Le siècle de Joseph Roman, dont vous êtes l'auteur. Et ce livre, on le trouve à la Maison de la Presse à Digne-les-Bains, également à la librairie La Ruelle. Mais aussi, donc, on peut vous le commander directement à l'adresse mail becjacques48@gmail.com. Et sinon, un numéro de téléphone, je le redonne, 06 86 47 13 12. Bonne fin de journée, à bientôt.
À bientôt, merci Odile.
Au revoir.
Au revoir.